5, 4, 3, 2, 1, ignition.
Como você? Émission lesbienne, gay, bi, trans, hétérophilie de Radio Campus Grenoble. Aujourd'hui, chers auditeurs, chères auditrices, chers auditeautres, nous allons vous faire une rediffusion. Non pas une rediffusion d'une chromosphère que vous aurez déjà entendue, non, mais la rediffusion d'une conférence que nous aurons enregistrée le 15 mai à la librairie Le Square au cours des Phobopholies. Il s'agit de Myriam Blanc. Myriam Blanc qui vient nous parler de son livre « Et elles eurent beaucoup d'enfants ». Des questions de parentalité, des questions d'actualité, toujours. Une interview qui est relativement longue, donc nous allons démarrer sur les chapeaux de roue. Pas d'agenda aujourd'hui, pas de revue de presse non plus, mais de la musique, car nous sommes quand même sur campus. Et le disque de la semaine, ce sera Yonder Boy dans un opus qui s'appelle Splendid Isolation. Et on commence tout de suite.
Selciato, una marcia nel giorno, un passo nella notte, è la mia antica dimora, è il mio santuario emotivo, è essa che mi culla, è essa che mi stringe, in un abbraccio senza tempo, solitudine. We'll be right back.
Wonder Boy, Splendid Isolation, et le titre était Amor. On part immédiatement à la rencontre de Myriam Blanc.
Alors, ben, tout d'abord, Myriam Blanc, qui êtes-vous?
C'est dur, comment c'est dur.
Alors, quel est,
je bah, suis l'auteur c'est... de ce livre, il
d'accord,
est là.
Donc vous êtes auteur.
C'est vendu à des millions d'exemplaires. Non, je suis donc, entre autres, je suis mère de famille, auteur mère de famille.
Mère de quatre enfants, c'est très à la mode.
Deux seulement.
D'accord. C'est votre boulot, vous faites autre chose?
D'être mère de famille?
Non, oui, peut-être. D'être mère de famille, c'est un travail.
C'est un travail. Donc je, par ailleurs, je travaille pour différents éditeurs sur les textes, rewriting, correction, écriture.
D'accord. Donc vous habitez en Ardèche, c'est ça?
Oui.
J'ai noté, vous étiez parisienne avant?
Vous savez tout.
Mais c'est
vous avez lu le livre?
Eh oui, je fais partie de ces gens qui lisent le livre avant de rencontrer les auteurs.
Oui, on habite dans un petit village de la vallée de l'Arieux, en Ardèche, après avoir habité à Paris.
Changement?
Forcément. Mais ça a coïncidé avec l'arrivée de notre premier enfant, donc c'est un changement.
C'était volontaire?
Global, oui, c'était volontaire.
C'est votre premier livre ou vous en avez fait d'autres avant?
Je suis l'auteur d'un livre excellent sur les bonsaïs que je recommande. Non, c'est vrai. Non, mais c'est mon premier livre personnel, oui.
D'accord. J'ai vraiment écrit quelque chose sur les bonsaïs.
Ouais, ouais.
Donc, Myriam Blanc, les bonsaïs, écologie du bonsaï, peut-être qu'au soir, vous pourrez les trouver. Éventuellement, pour une prochaine rencontre. Alors, une des premières choses qui m'a surpris dans votre livre quand je l'ai lu, c'est que c'est pas un découpage par chapitre, mais par paragraphe, en fait. Oui, c'est plus un paragraphage qu'un chapitrage. C'est un choix ou est-ce que vous avez essayé d'écrire des chapitres et puis finalement c'est... Parce que chaque paragraphe a vraiment un thème assez bien délimité, c'est...
Ouais, moi je voyais plutôt ça comme des chapitres très courts, mais c'est une question de définition. Oui, je voulais pas me couler dans un moule un peu... que je sentais pas trop, de faire des chapitres bien définis, sur de même longueur, sur différents sujets. Je préférais garder plus de liberté sur des sujets sur lesquels j'ai beaucoup à dire, d'autres où j'ai peu à dire, d'autres où j'ai très peu à dire.
C'est vrai que vous partez un peu parfois dans tous les sens, avec une chronologie, un sens très personnel de la chronologie, en avant, vous allez en arrière.
En avance, on recule.
Ça, vous avez déjà eu des retours de lecteurs comme ça qui se sont un peu perdus un peu du tout?
Ben non, la plupart des gens s'y retrouvent assez bien, mais c'est quand même assez simple comme histoire. Deux personnes, deux femmes, et puis à l'arrivée, il y a deux femmes et deux enfants. Donc on arrive quand même globalement à suivre le cheminement, quoi. C'est pas... Oui. Enfin, je sais pas, vous avez eu des...
Non, moi, je me suis pas perdu. Et en fait, le fait que ce soit en paragraphe avec un titre qui est généralement... un sens de la formule certain. Moi, ouais, ça donne un petit peu un aspect, je sais pas, comment dire, mini encyclopédie pratique de l'enfantement pour deux femmes, munies de beaucoup de volonté et plein d'amour.
C'est un peu ça.
Mais vous vous défendez de vouloir faire un guide, hein, quand même.
Ouais, non, c'est pas un guide. Mais j'avais envie de faire quelque chose de léger sur le sujet, parce que c'est un sujet qui est surtout abordé d'une manière sociologique, psychologie de l'enfant, ça, pauvres enfants avec deux mamans. Et j'avais envie de faire complètement autre chose, de rire un peu, de aussi de rire de ça.
Effectivement, il y a une légèreté, c'est...
Et c'est aussi pour ça que j'ai fait des petits chapitres, comme ça, je me dis que ça, c'est un livre qu'on peut feuilleter.
C'est comme ça que je l'ai lu.
Voilà.
C'est par tout petits bouts, par deux pages,
trois
pages.
C'est pas mal, finalement, je vais reprendre du début.
Ouais, non, mais par deux, trois pages, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui se lit très bien. Et c'est effectivement, la légèreté, c'est agréable, pour une fois, sur ce sujet. Ben, si c'est pas un guide, c'est quoi?
C'est une bonne question. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit que c'était un olni. Un olni, c'est un objet littéraire non identifié. Et je ne sais pas bien comment le définir, c'est pas un journal, c'est pas... C'est en même temps, c'est autobiographique, tout est vrai, mais c'est pas non plus une autobiographie sérieuse et exhaustive. Je sais pas, vous avez une idée de définition?
Non, c'est vrai que je rapproche, je passe à des confessions de Rousseau, mais non, c'est la première fois en fait, vraiment, le paragraphage, ça m'a vraiment donné... J'ai vraiment l'impression d'une nouveauté en fait, par rapport à ça. Par rapport à la façon dont c'est écrit. Donc ce qui vous a motivé, c'était de faire quelque chose de sympa, un peu léger sur l'enfantement. C'était vos seules motivations?
Non.
C'était l'argent.
C'était l'argent qui me motivait, j'ai oublié de le dire. Non, j'avais des motivations, j'en avais plusieurs. Outre une motivation personnelle qu'on a forcément quand on écrit quelque chose, ça se veut quand même, c'est très immodeste, mais le témoignage d'une certaine réussite, quelque part. Enfin, en tout cas, je voulais juste témoigner du fait qu'on pouvait être homo et avoir des enfants, que ça se passe bien et que ça se passe dans la légèreté, et que ça soit encourageant pour les autres homos, éventuellement. Et même pour les hétéros.
En l'espace d'un instant, j'ai eu envie, et puis après, bon, j'ai...
Ouais, ça marche.
Un peu. C'est bon, on aura nos 2,2 comme tout le monde. Vous avez l'impression d'être arrivé à vos fins ou pas? Est-ce que vous avez des retours?
J'ai que des bons retours, mais je suppose que les gens qui n'aiment pas... ils n'ont pas suffisamment détesté pour m'agresser, donc j'en ai pas entendu parler, et ceux que ça diffère m'en ont pas fait part, donc je n'ai que le texte et le retour. Non, apparemment, les gens qui m'en ont parlé certains ont été agacés, certains hétéros trouvent que c'est agressif à l'égard des hétéros.
C'est vrai qu'il y a 2-3 remarques, vous démarquez, mais en même temps c'est pas moins d'humour que je trouve que ce que vous en faites sur vous-même ou votre condition d'humour, en fait.
Ouais, mais je pense que parfois certains hétéros, quand ils se trouvent dans une société où il n'y a que des homos, se trouvent un peu... excusez-moi, je parle pas assez fort, je vais parler plus fort, pardon. se trouvent décalés et du coup assez mal à l'aise, et ils ne se rendent pas compte que c'est ce qu'on peut vivre tous les jours, quoi. Donc du coup, ça leur paraît agressif. Et c'est comme ça, j'ai eu 2-3 retours de gens qui se sentaient un peu... agressé par mon livre, alors que c'est pas du tout ce que j'ai voulu y mettre. J'ai voulu aussi me moquer un peu des hétéros au passage, mais je pense que je me moque de pas mal de choses, et j'espère y compris de moi-même, donc...
Oui, je confie. Non. Mais vous dites que ça a gêné les hétéros, mais oui, il y a une personne à qui je pense dans l'histoire, c'est votre compagne, parce que c'est clair, c'est pas forcément un roman autobiographique, mais tout est vrai. Et il y a des passages qui sont... Enfin, vous dites, hein, on n'apprend pas comment on fait l'amour entre femmes, seulement comment on fait des enfants. Mais il y a quand même des passages qui sont intimes, qui sont parfois un peu durs aussi, des moments qui ne sont pas forcément sympas de votre parcours d'enfantement, de votre projet d'enfant. Ça n'a pas gêné votre compagne? Ça a pas...
Non, en fait, elle s'est considérée comme un personnage du livre, donc... Je dis toujours, je suis un personnage. Non. Enfin, pour moi et pour elle, ça c'est aussi un reproche que m'a fait ma belle-mère, qui a trouvé que vraiment c'était limite très exhibitionniste. Et pour moi, non, c'est mon intimité, elle est pas là. Ce que je décris, c'est sincère, je pense. C'est des trucs qui sont vrais, mais mon intimité, elle est ailleurs. Et effectivement, il y a des choses qui sont difficiles, et... Enfin...
Donc ça s'est quand même bien passé, écoute.
Oui, oui. Je n'ai pas divorcé depuis.
Youpi. Donc peut-être qu'on aura, et elle gère beaucoup d'adolescentes plus tard pour
bilan de la suite est vraie. Bah déjà, elles ont beaucoup changé, parce que le bouquin a 2 ans, je l'ai écrit, elles étaient assez petites. Donc là, maintenant, notre fille aînée va avoir 7 ans vendredi. Donc déjà, c'est très différent, quoi. Et en même temps, je constate tous les jours que c'est très différent, mais c'est toujours très facile. Mais en tout cas, l'homoparentalité en tant que telle ne pose pas de problème à mes enfants.
Et dans le village?
Aucun. Dans le village, ça fait aucun problème, parce que je pense que quand on se présente en tant qu'homo d'entrée, les gens sont un peu désarçonnés parfois, mais finalement ils s'y font. Et difficile d'agresser les gens dans un village, on les croise tous les jours, hein. Donc il y a sans doute des gens qui trouvent ça pas bien, mais ils le disent pas trop, et je pense que la plupart des gens sont un peu indifférents quant à notre situation, quoi. On est des parents comme les autres. Non, ça pose strictement aucun problème. Hein.
Moins qu'à Paris?
Je sais pas, je vis plus à Paris. Mais la seule fois, les rares fois où je me suis fait insulter en tant qu'homo, c'était à Paris, mais c'était pas dans mon village. Mais parce que je pense qu'il y a une impunité de l'anonymat dans les villes, hein, où on peut insulter des gens comme ça en passant, on est à peu près sûr de jamais les revoir. Hein.
C'est un livre que vous mettriez entre quelles mains? Entre toutes les mains.
Toutes. Moi, je crois. Non, je j'aimerais bien qu'il aille entre des mains de jeunes mains, des ados, des lycéens. Et c'est vrai que les quelques retours de lecture de lycéens que j'ai eus, ça passe assez bien, quoi. J'ai aussi un peu écrit en pensant à des ados que ce ton-là peut toucher et qui sont sans doute plus ouverts que les adultes sur ces sujets-là. Enfin, en tout cas, c'est des gens que j'aimerais bien toucher par ça.
Vous avez déjà eu le vent d'un travail qui a été fait en classe ou pas sur ce livre?
Non, j'espère que ça viendra. Ça, mais... Si, enfin, oui et non, en fait, il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, il y a une jeune fille que je connais qui était en première et qui a bossé sur le mot parentalité dans le cas, je ne sais plus comment ça s'appelle. Des TPE. Et,
elle est venue...
Ouais, apparemment, ouais, elle est venue me voir pour parler de mon bouquin. Et ça, c'était assez encourageant, je trouve, de voir que ça pouvait intéresser des gens en première de bosser là-dessus.
Et si on l'exploitait en classe, vous le verriez exploiter comment? C'est pourquoi tu...
C'est une question technique. Non, mais je sais pas, il y a des profs dans l'assemblée. Non, je sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Moi, je... Ça n'a pas de prétention littéraire, donc c'est plutôt un objet sociologique pour moi, même si je me suis bien amusée à l'écrire, c'est pas... Je pense que c'est une bonne base de discussion sur la parentalité et que, ouais, que ça peut ouvrir des perspectives. C'est plutôt comme ça que je vois les choses.
Vous faites un récit assez refroidissant de votre premier contact avec l'association des parents et futurs parents qui les aiment bien. Ça s'est réchauffé depuis entre vous.
Bon, je vais faire un... Il est bientôt épuisé, je vais refaire le chapitre. Non, c'était... Je pense qu'on s'est assoupli là-dessus, sur l'accueil des lesbiennes qui cherchent des adresses pour faire des enfants.
Pour remettre un peu dans le contexte, la première fois que vous êtes retrouvée à la PGL, on vous a gentiment dit adhère, et puis ensuite c'est
ouais, mais bon, il faut se voir le contexte. On s'est pris un très mauvais moment dans une conférence où les gens avaient vraiment autre chose à faire. Okay. Bon, certes, la fille n'était pas très sympathique, mais je pense qu'on était en partie responsable. Mais... Cela dit, c'est important d'adhérer à la PGL aussi parce que plus on est nombreux, plus on a de poids, quoi. Et que... D'ailleurs, j'ai adhéré.
Vous dites ça avec
un... Non, je rigole aussi de la PGL, mais je suis une membre relativement active.
Ça vous a aidé?
Ça m'a aidé à finalement mieux vivre dans ma peau d'homo, parce que jusque-là, on a réalisé qu'on était assez peu entouré d'homo avant d'avoir des enfants, et que c'est que depuis qu'on a des enfants que finalement, on a beaucoup plus d'homo autour de nous, entre autres grâce à la PGL. Donc oui, ça nous a aidé, ça aide surtout nos filles en fait. C'est très très important pour elles de savoir qu'il y a d'autres enfants qui sont élevés dans le même contexte qu'elles, et... de maman ou de papa ou des configurations plus compliquées, mais oui, c'est très important pour elle. Et elle tient beaucoup à rencontrer d'autres enfants de la PGL et à faire des choses avec eux. Parce que c'est vrai que ça se passe très bien à l'école, par exemple, pour elle. Tous les gamins, donc on habite un tout petit village, l'école, il y a 50 enfants. Ils sont tous au courant de notre configuration familiale. Et ça se passe très bien, je veux dire que c'est vraiment une caractéristique parmi d'autres qui leur pose aucun problème. Mais n'empêche qu'elles sont seules de leur espèce à l'école et ailleurs. Et donc c'est important pour elles de savoir qu'il y a d'autres enfants qui sont dans le même cas de figure. C'est vraiment très important.
Et pour le livre, est-ce que vous avez eu des échanges? Est-ce qu'ils vous ont soutenu? Est-ce que...
Bah oui, ça a fait ça. Il y a plein de gens de la PGL qui m'ont eu, évidemment. Ben oui, ça a donné lieu à plein d'échanges sympas, d'échanges de mails. C'est aussi une manière d'ouvrir la discussion avec les gens, d'avoir écrit un bouquin comme ça. C'est, ça permet aussi de rencontrer plein de monde, c'est très enrichissant.
Vous tordez le cou au passage au petit ours brun.
Ah,
c'est de la zoophobie.
Petit ours. Le hais. Le gamin adore ça, c'est terrible.
Vous pouvez nous expliquer?
Vous l'avez lu, tu vois, petit ours?
Le petit ours brun, oui, on me l'a offert.
Du coup.
Mais oui, mais moi j'avais déjà 15 ans quand on me l'a offert.
Non, ce que j'aime pas, c'est l'image familiale qui véhicule papa, maman. En plus, maman, elle fait avec toujours la cuisine pendant que papa lit le journal en charentaise. Moi, je pense, bon, c'est une petite phobie personnelle. Mais c'est le plus terrifiant, c'est que mes gamines adorent le petit ours brun. Enfin, adorer, hein, c'est un peu plus grand. Désolée.
Et vous êtes toujours dans Chromosphère, l'émission lesbienne, gay, bi-trans, hétéro-friendly de Radio Campus Grenoble. On vient de s'écouter à l'instant le disque de la semaine, Yonder Boy, l'album c'est Splendid Isolation, et on vient d'entendre People Always Talk About The Weather. Et on reprend notre interview avec Myriam Blanc, qui a écrit « Et elles eurent beaucoup d'enfants ». C'était au Square le 15 mai dernier.
Je vais peut-être donner un peu la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que des personnes ici ont lu déjà le livre ? Ou pas encore ? Est-ce que vous connaissez déjà Myriam Blanc, son livre sur les bonsaïs ? Non ? Est-ce que vous avez des questions particulièrement à poser ?
J'ai une question par rapport aux enfants. Quelles questions vous ont-elles posées précisément sur la conception et que leur avez-vous dit ?
Ça c'est pas passé comme ça en fait. En fait, depuis qu'elles ont été conçues, on leur a expliqué comment elles ont été conçues. Donc c'est un truc qui, c'est quelque chose qui est, ça a évolué au fil des années, mais on leur a toujours expliqué, y compris même quand elles étaient toutes petites. Et pour simplifier les choses, on a fait une insémination artificielle avec donneur en Belgique. Et en gros, on leur a expliqué comment on faisait normalement les enfants. Pas normalement, entre guillemets. Elle commence à poser des questions plus précises sur comment le papa met sa petite graine dans le ventre de la maman. Mais là, on n'en est encore pas là.
Comme tout le monde, avec une petite cuillère.
Et donc, on leur a expliqué qu'on était allé chercher ce qu'on appelait des graines de bébé en Belgique. Très gentil monsieur, elle a laissé prendre pour l'instant, on en est à peu près là, elle commence à un peu mieux comprendre, mais là elle commence à s'interroger.
Pardon.
Elle commence à s'interroger plus avant sur la manière dont on fait les bébés entre un homme et une femme. Donc je pense qu'on pourra peut-être leur expliquer un peu plus. Mais c'est assez simple pour elle, quoi. Et ça leur pose pas de. Ça leur pose pas de problème existentiel. Ce que je veux dire, c'est qu'elle de. On a eu grand soin de pas présenter ça comme un manque. C'est-à-dire que pour nous, elles sont fruits d'une histoire d'amour. Et on ne dit pas qu'elles n'ont pas de papa. C'est pas comme ça qu'on présente les choses. Et du coup, elles ne se sentent absolument pas en manque.
Vous leur avez parlé de ça dès la conception, mais enfin, parce que vous faites le panégyrique de l'aptonomie. Alors l'aptonomie, c'est quoi? C'est la séance publicitaire aptonomie.
L'aptonomie, c'est entre autres une préparation à l'accouchement, si on peut dire. Ça touche plein de domaines, mais entre autres, ça touche la grossesse, et c'est quelque chose qui permet de communiquer avec le bébé en posant les mains sur son ventre de la mère. Et c'est incroyable. Non mais ça. Il y a une vraie. Il s'établit une vraie communication entre la personne qui pose ses mains et le bébé qui est dans le ventre. Et bon, il y a une vraie discussion, quoi, qui commence à s'établir là. J'exagère un peu, mais. Et c'est en ce sens que je dis qu'on a commencé à leur parler de ça dès leur conception et que. Qu'on leur a toujours dit d'où elle venait et pourquoi elle venait là.
Et le choix de. Quelle réflexion vous a amené à ce choix là, enfin ce choix de type de conception?
De type de conception là.
Par rapport à d'autres possibilités que vous avez pu avoir, pourquoi celui-ci?
Pourquoi celui-ci? Si on suit le processus, donc on a commencé à se dire qu'on avait envie d'avoir des enfants, on s'est dit bon, comment on fait? On a commencé à se dire bon, on peut demander à un copain, ce qu'on appelle maintenant donneur connu, beaucoup moins poétique. Mais on ne s'imaginait pas, en tout cas dès le départ, de faire un enfant à plus de deux. Donc je ne voulais pas faire un enfant avec un ami qui avait envie d'être un père. Et parce qu'on ne s'imaginait pas partager un rôle parental, quoi. On avait vraiment envie que nos enfants soient une affaire de couple. Je comprends très bien les gens qui font des coparentalités, ça peut être une une expérience très, très 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 chouette, mais il faut accepter de vivre quelque chose à trois et de faire une vraie place au père ou aux pères, enfin à un seul ou plusieurs. Et je pense que ça doit être très enrichissant, mais je pense que c'est très difficile. Et en tout cas, nous, ça, c'était pas notre histoire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a éliminé d'entrée. Après, faire qu'un ami nous fasse un don de sperme, par exemple, ça pouvait poser des problèmes ensuite ultérieurement de reconnaissance d'enfant ou de quelqu'un. C'était pas une option très, très raisonnable. Donc finalement, il ne restait pas 50 solutions. Et la question de l'adoption qu'on avait envisagée aussi, pour nous, ça aurait été vraiment pareil, simplement on avait envie de porter un enfant, on avait envie d'être enceinte chacune. Et voilà, c'était un moyen de connaître cette expérience. Oui, on a porté un enfant chacune des deux. Ouais.
D'accord, parce que dans certaines situations, c'était la même. Hein.
Oui, effectivement.
Donc,
voire trois, des fois, j'en connais.
Et se pose la question de la maternité pour l'une et de la non-maternité pour l'autre.
Oui, j'imagine, ouais.
Et ce qui n'est pas si facile, et d'autre part, de quel rôle et quel statut a celle qui n'a pas porté l'une.
Oui, je pense que les situations sont un peu différentes. Dans notre cas, on a chacune porté un enfant. Ouais. Et je ne dis pas qu'on a chacune un enfant, parce qu'on a chacune deux enfants.
Oui, la suite, est-ce que les statuts...
Non, sont exactement pareils. Les filles nous appellent maman toutes les deux. Alors, c'est assez marrant, parce que quand elles pensent que l'une ou l'autre peut faire l'affaire, elles disent papa, sans préciser, c'est au pluriel en général. Et si, des fois, je dis oui, elles disent non, pas toi, maman Astrid. Alors, des fois, elles ont une interlocutrice privilégiée sur telle ou telle chose. Mais...
Alors, je n'ai pas lu votre livre, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait une femme qui porte un enfant, au monde un enfant, ou deux, une seule, comment se positionne l'autre j'ai des exemples pour moi. Des fois c'est maman 2, c'est marraine. Des fois la loi ne prévoit pas vraiment si on n'est pas un futur légal.
La loi prévoit rien, ouais.
Rien du tout.
Ouais, hélas.
Donc je veux dire, la situation matérielle d'autre avec un grand A n'est pas si facile.
Non.
Quand elle n'a pas porté l'enfant qui est soit adopté, soit porté. Donc,
quel regard vous avez par rapport à ça?
Moi j'ai un regard. Ce regard-là, il est différent suivant les couples. En fait, c'est un choix de couple. Enfin, la plupart du temps, c'est un choix de couple. Il peut arriver qu'il y ait une des femmes qui ait des problèmes de fertilité, par exemple. Mais dans notre entourage, on connaît tous les types de cas. Et y compris, par exemple, une copine qui a porté trois enfants et son ami n'en a porté aucun parce que tout simplement elle n'en avait pas envie. Et elle se positionne quand même comme maman, absolument maman, mais elle ne se fait pas appeler maman, c'est vrai.
Mais au niveau vous, dans votre position, vous comprenez mieux au niveau du statut juridique, c'est-à-dire légalement, les deux enfants, en fait,
comme nos deux mères. Mais légalement, ils n'ont qu'une mère. Légalement, ces enfants n'ont qu'une filiation.
Il n'y a pas de... À part de faire une démarche légale sur un tuteur légal, actuellement...
Actuellement, la seule possibilité qui existe qu'un enfant...
C'est l'adoption simple.
C'est l'adoption simple. Ah. Mais bon, vous avez entendu parler du cas qui est allé en cassation récemment. Donc c'est
un...
Non. Donc vous n'en avez pas entendu parler.
Elle porte le même nom, les
deux. Elle porte le même nom, oui. Elle porte nos deux noms assemblés. Mais c'est par usage. C'est-à-dire que par légalement, elles ne portent chacune le nom de leur mère biologique. Mais pour elle, et c'est en ça que je pense qu'on va probablement essayer de faire une démarche d'adoption simple. Leur nom, leur vrai nom, c'est nos deux noms. Mais il se trouve qu'il y a peu de temps, j'ai été amenée à faire avec Augustine, donc qui est notre fille aînée, une radio, un truc tout bête. J'ai donné ma carte vitale à la secrétaire, et sur la radio, il est apparu le nom incomplet de ma fille, Augustine Blanc. Elle regarde ça, elle dit, mais maman, c'est pas mon nom. Et là, j'ai commencé à essayer de lui expliquer ces histoires d'adoption simple, ils ne comprennent rien. Et il se trouve qu'on a des amis qui ont réussi, qui sont parmi les deux cas, qui ont réussi à adopter, justement faire cette adoption simple. Leur gamin, il a 5 ans, il n'a absolument rien compris. Et on a essayé de l'expliquer à nos filles, elles ne comprennent rien non plus, parce que pour elles, c'est la situation, ça leur paraît complètement normal, c'est ce qu'elles vivent depuis toujours, en fait. Donc elles n'arrivent pas à matérialiser
qu'en fait, c'est pas...
Alors, l'adoption simple permet à la compagne de la mère, ou compagnon de la mère, d'adopter l'enfant, mais pas de manière planière, c'est-à-dire que ça ne coupe pas la filiation biologique, ça s'additionne, en fait. Donc il faut faire une démarche devant la justice, devant le juge aux affaires familiales, pour demander à pouvoir adopter l'enfant de sa compagne, ce qui fait qu'il portera officiellement les deux noms accolés de ses deux parents, et qui pourra hériter, etc. Et ça donne l'autorité parentale à la mère adoptive, du coup. Ça enlève l'autorité parentale à la mère biologique. Voilà. Et donc souvent...
C'est énorme, ça.
Voilà. Mais parce qu'en fait, au départ, c'est une législation qui n'est pas faite pour nos familles. C'est fait pour par exemple, des enfants qui sont dans des familles d'accueil, qui ne sont pas adoptables, hein, parce que leur mère ne les a pas abandonnés, leur mère biologique ne les a pas abandonnés, mais qui, de fait, sont adoptés par des familles d'accueil, par exemple. Donc, du coup, ça se justifie que l'autorité parentale soit enlevée à la mère biologique pour être mis aux parents. Enfin, ça avait une raison d'être. Mais là, dans le cas de nos familles homo, c'est vrai que c'est absurde.
Il va falloir faire une adoption croisée.
Voilà, il va falloir faire une adoption croisée.
Il faudrait
de celle qui, donc, qu'on n'a pas portée. C'est ridicule.
Est-ce que juridiquement, le PACS,
le PACS n'a aucune influence sur la famille. Ça a été dit, répété quand ça a été voté. Rappelez-vous. Non, ça n'a strictement aucune... Enfin, ça, c'est supposé n'avoir aucune incidence, mais cela dit, ça vient toujours en argument supplémentaire pour accorder l'adoption. Si on n'est pas PACSé, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Mais de fait, c'était... Au moment où ça a été voté, tout le monde a bien insisté en disant « Surtout, ça n'a rien à voir avec la filiation, l'enfantement, etc. »
Qui, dans le monde, aussi, les gens refusent le mariage, parce que le mariage, effectivement, pose des problèmes de filiation. Donc le mariage non sexuel, à un moment donné, est refusé parce que...
De filiation. Oui, enfin des problèmes. Par exemple, au Québec, ça pose aucun problème de filiation. Donc, au Québec, à l'heure actuelle, les couples de même sexe peuvent se marier. Les enfants qui naissent du couple sont présumés être les enfants des deux membres du couple automatiquement, comme c'est les couples hétéros. Donc, ça n'a pas l'air de poser des problèmes totalement insurmontables sur la filiation au Québec. Hein, mais pourquoi est-ce que ça en pose chez nous ?
La réponse se trouve du côté du Vatican. Puisqu'on parle de difficultés, j'aimerais revenir sur votre cas à vous. En fait, par rapport à l'insémination, il y a aussi autre chose qui est très présente dans votre livre. C'est le Thalys. C'est la SNCF.
C'est la SNCF.
Les voyages, les allers-retours, parce que... Donc, racontez-nous un peu comme...
C'est lourd, hein, je veux dire, que faire une insémination artificielle avec donneur, ce n'est pas possible en France. Hein. Je pense que tout le monde est au courant dans cette assemblée. Donc il faut aller dans des pays où c'est possible pour des lesbiennes. Ils sont quelques-uns qui entourent la France. Maintenant ça se pratique couramment en Espagne, mais à l'époque où nous on a voulu avoir des enfants, bon, il se trouve qu'on habitait à Paris en plus, mais c'était quasiment automatiquement la Belgique qui attirait les regards. Et donc quand on commence à... Ça a l'air tout simple, une insémination c'est techniquement quelque chose d'assez simple. Mais bon, ça peut prendre du temps pour réussir. Et c'est vrai que j'ai beaucoup laissé d'argent à la SNCF.
J'ai pas compté, mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs dizaines, je pense.
Ouais, j'ai fait 14 inséminations pour être enceinte. Donc, ça... Plus toutes celles qui n'ont pas marché, parce qu'on a voulu avoir un troisième enfant, on n'a pas réussi. Donc, depuis l'Ardèche jusqu'à la Belgique, c'est assez... un bon investissement.
Je peux avoir des enfants avant même.
Excusez-moi, je vous pose une question indiscrète. Est-ce qu'il est difficile d'être
Non, c'est que la fertilité n'est pas assurée, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. Je pense qu'on n'est pas. Toutes les femmes ne sont pas égales devant la fertilité. Et puis que, évidemment, moi j'avais 36 ans quand j'ai eu ma fille. Et que, je pense qu'il y a une forte baisse de la fertilité à partir de la trentaine.
D'entendre Yonder Boy, toujours sur la 90.8, dans la chromosphère, extrait du disque Splendid Isolation, c'était All We Go To Hell. Et on continue notre interview de Myriam Blanc.
En Belgique, c'est totalement anonyme. Ouais.
C'est-à-dire que si votre fille est éventuellement trace...
En Belgique, c'est impossible. On a même signé un papier comme quoi on s'engageait à ne pas tenter... Je ne sais même pas comment on pourrait essayer de faire des recherches, mais on a même signé un papier dans ce sens. Et je vous avouerai qu'on l'a choisi. C'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, par exemple, les dons ne sont pas anonymes. Ne sont plus anonymes. C'est-à-dire que les enfants qui sont conçus selon ce système peuvent, à leur majorité, demander à avoir quelques informations sur le donneur qui a permis leur naissance. Je ne sais même pas si... Non, je crois qu'ils ne peuvent pas le rencontrer, je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises là-dessus. Et je sais qu'il y a des gens pour qui c'est important de savoir que c'est une personne, qu'elle a un nom, une tête. Nous, ça nous a paru plutôt être quelque chose qui pouvait jeter trouble dans notre histoire familiale, donc on n'a pas souhaité ça. Mais aussi parce qu'on pense que pour nous, la biologie est quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance. Et c'est en ça que je disais qu'on aurait très bien pu adopter des enfants exactement de la même manière qu'on les a fait parier. Simplement qu'on avait envie de cette expérience d'être enceinte, mais...
IAD, c'est...
Insémination artificielle, pardon, avec donneur. Et donc pour nous, la biologie a peu d'importance. Je crois qu'elle n'en a pas, mais elle en a peu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi préféré ne pas... que nos filles ne soient pas conçues avec le même donneur, tout anonyme qu'il soit, on peut savoir si c'est le même ou pas. Il y a pas mal de couples de filles qui demandent à bénéficier du même donneur. Bon, là, il se trouve que pour des problèmes de rhésus, de toute façon, ça se serait révélé très difficile, mais on n'y tenait pas du tout. Et on n'y tenait pas du tout parce qu'on disait que ça serait quand même curieux que seul le lien biologique de nos filles soit d'une personne qui nous soit totalement extérieure. Et donc, on a préféré des donneurs anonymes différents. L'aînée va avoir 7 ans, là, et la plus jeune a 5 ans et demi.
Et est-ce
qu'elles
vous ont déjà posé la question de savoir quel était leur
père? Non, parce qu'elles ne raisonnent pas comme ça. Leurs parents, c'est nous, quoi. Elles ne pensent pas en termes de père biologique. D'ailleurs, nous-mêmes, on ne pense pas dans ces termes-là. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup de respect, de considération et de gratitude pour l'homme qui a donné son sperme pour qu'on ait des enfants. Et pour nous, c'est pas un père, parce qu'un père, c'est beaucoup plus que ça. Donc on en parle toujours en termes de donneur. Donc il y a volontairement aussi pour pas créer la confusion avec les pères qu'elles ont autour d'elles, les pères de leurs copains et tout ça, qui sont quelque chose de très différent. Quoi. Elles ont eu une période vers 2 ans, entre 2 et 3, où elles n'arrivaient pas à comprendre ce que c'était qu'un père, en fait. C'était assez marrant. Elles ont essayé de creuser un peu la question, de nous appeler papa pour voir ce qui se passait, par exemple. Ça n'a pas duré. Et c'est vachement marrant parce que j'en ai discuté avec plein de copines qui ont des enfants dans le même contexte et ils ont tous fait ça, à peu près au même âge. Parce que c'est une entité, c'est très abstrait, quoi. Qu'est-ce que ça peut bien être un père? Donc elles comprennent que c'est le deuxième parent et peut être un père, quoi. Mais ça a mis un moment à se fixer.
Et il se passait quoi quand elles essayaient?
Bon, on leur disait, mais non, tu sais bien que... Papa, enfin. Non, on leur expliquait, en général, on disait, est-ce que tu veux qu'on te réexplique comment tu as été conçu? Et en général, ils disaient oui, parce que c'est pas non plus très facile à comprendre.
Est-ce que vous connaissez des couples d'hommes qui ont des enfants?
Oui, je connais. Le garçon qui était là tout à l'heure, il est parti, mais il en a un. Je connais des couples d'hommes qui ont adopté des enfants. C'est pas évident. Enfin, il y a un des hommes qui a adopté des enfants, parce que c'est toujours la même chose, on ne peut pas adopter en tant que couple. Je connais aussi des hommes qui ont des enfants en coparentalité. Ouais, avec un couple une femme, un couple de femmes. Parfois, c'est deux personnes, un homo garçon et un homo fille, mais pas en couple, donc c'est assez bizarre quand on est ensemble. Non. Mais en fait, les enfants...
Excusez-moi, je n'avais pas... Non, c'est pour ça que je suis...
Mais je pense que les enfants, en fait, comprennent tout du moment qu'on leur explique clairement les choses. Non, non, ils se mélangent pas du tout les pinceaux. Et... Non, c'est un fonctionnement qui est assez marrant à voir. Les enfants passent d'un couple à l'autre, d'une maison à l'autre, et ça se passe sans problème. Ben, quand je vois les enfants fonctionner, je ne connais pas des tas comme ça, mais j'en connais quand même quelques-uns et ils fonctionnent bien. Hein, c'est différent là où ça se complique. Souvent, c'est compliqué au début parce que les pères ont un peu du mal à comprendre qu'une mère qui vient d'accoucher, elle n'a pas envie de lâcher son nouveau-né au bout d'une semaine. Ça, c'est vrai, c'est juste un truc même presque physique. Quoi. Ils ont un peu de mal à concevoir ça. Donc souvent, au début, il y a de fortes tensions et qui parfois ne se résolvent pas ou se résolvent devant les tribunaux. Enfin, ça, c'est vrai que ça... Bon, une fois qu'après que ça... C'est des histoires qui arrivent à fonctionner bien, sauf s'il y a des séparations dans les couples, par exemple, où les parents non biologiques, là, ça devient carrément difficile de garder un contact avec l'enfant, parce que quand il y a un père biologique et une mère biologique, s'il y a une séparation, les parents qu'on appelle sociaux, il faut vraiment qu'ils s'accrochent pour continuer à avoir des liens avec les enfants. Oui, c'est très difficile.
À un moment, par exemple, dans les couples hétérosexuels, les couples divorcés, on commence à réfléchir à l'idée que ce soit les enfants qui aient un lieu unique d'habitation ou viennent finalement habiter l'un ou l'autre une semaine. Dans le cas des couples qui sont en coparentalité, où on sépare d'emblée l'enfant avec une semaine
à l'habitation.
Tout ça,
oui, c'est vrai que c'est assez compliqué.
Dans une démarche où on se dit, finalement, il y a quand même pas mal d'études pour prouver que c'est difficile pour les gamins de passer d'un moment à un autre, que c'est bien qu'ils aient un lieu. C'est plutôt aux adultes,
De bouger, oui, c'est vrai.
De bouger, de faire l'effort, finalement.
Non, mais c'est vrai que moi, c'est aussi l'aspect un petit peu... Personnellement, la coparentalité est quelque chose qui ne m'aurait pas du tout convenu. Donc, j'ai tendance à... J'essaye de voir aussi les avantages, mais j'en vois surtout les défauts, et notamment ce côté d'organisation du divorce dès le départ, c'est assez... Mais bon, c'est vrai que les enfants sont nés là-dedans, et que finalement, ils le vivent comme une donnée de leur vie, comme une autre, et que les adultes essayent quand même de les protéger de ça, et que bon, il y a vraiment des cas où ça se... Et puis il y a toutes sortes de cas, c'est-à-dire qu'il y a des cas une semaine, il y a les cas où les pères sont par exemple un peu moins investis, et c'est souvent les mamans qui les ont la semaine et les pères le week-end de temps en temps, pas toujours. C'est vraiment, il y a toutes sortes de... Et je connais même des couples qui ont acheté un petit immeuble où les pères habitent au rez-de-chaussée, les mères à l'étage.
C'est super vraiment cher.
Et les gamins se baladent d'un étage à l'autre, donc ça c'est vachement sympa, mais c'est vrai qu'il faut vraiment s'entendre.
C'est vrai que moi j'ai des copains qui ont fait la même chose qu'ils ont divorcé, la troisième.
Ah ouais? Ah, ça c'est fort, ils n'arrivent pas à se taper dessus.
Moi j'ai vécu ça du côté enfant et ils se tapent dessus. Myriam Blanc, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusque-là. Est-ce qu'il y a encore des questions?
Est-ce qu'il y en a beaucoup?
Ben, on ne peut pas trop les... Enfin, c'est difficile à comptabiliser. La PGL estime, c'est une estimation, qu'il y a entre 100 000 et 200 000 enfants qui sont élevés dans un contexte homoparental.
100 000 enfants, sur combien d'enfants?
Une autre question. Ça fait pas beaucoup. Non, non, oh non, c'est beaucoup moins. Non.
Sur 60 millions d'années.
Mais bon, il n'existe pas de réel chiffre, puisqu'en fait, l'INSEE n'a pas le droit de comptabiliser les folies.
Ce qui est pas mal. C'est
Ben oui, puisque on n'a pas le droit de poser des questions discriminatoires dans des formulaires de l'INSEE, donc on ne peut pas savoir si les gens sont homo, s'ils sont leur origine ethnique, etc. Donc du coup, c'est très flou.
Et puis il y a pas mal d'enfants qui sont élevés en partie en famille hétéro, mais qui
vont rejoindre
un père qui est parti.
Voilà, c'est...
Et donc eux, ils avaient comptabilisé sur le côté hétéro de la famille.
Ouais, je pense, oui. Non, tout ce qu'on peut dire, à l'heure actuelle, la PGL, il y a environ 1500 adhérents et ça fait 700 enfants. Mais bon, il y en a en réalité beaucoup plus que ça. Il y a aussi pas mal de gens qui... Dans les adhérents de la PGL, des gens qui adhèrent à la PGL tant qu'ils n'ont pas d'enfants et qui n'adhèrent plus quand ils ont des enfants, il y en a plein. Donc c'est vrai que c'est un peu des familles qui s'évaporent un peu dans la nature, beaucoup qui sont assez planquées aussi, il faut bien le dire, c'est regrettable. Mais... Donc c'est difficile à quantifier en réalité.
Bien. je vais clore.
Vous arrivez juste à temps.
C'est sur l'arrivée de notre présidente que nous clorons donc cette rencontre. Donc, Myriam Blanc et Azur, beaucoup d'enfants, attendez au square. N'hésitez pas.
Et ce soir.
Et ce soir, également ici.
Merci de m'avoir invité, en tout cas. Je voulais juste préciser que je vois sur votre table, là, il existe à l'heure actuelle un livre qui a été édité par la PGL, qui est un recueil des études qui existent sur l'homoparentalité, exhaustif. Ça peut être assez intéressant dans les discussions avec les... On le trouve à la PGL. Normalement, il doit distribuer en librairie, je pense, mais c'est... Donc ça s'appelle Guide bibliographique sur l'homoparentalité. Et c'est très complet. Et c'est assez effectivement, je trouve que c'est un outil intéressant dans les discussions, parce que très souvent, quand on discute avec des gens, l'argument qui vient, c'est « mais il n'y a pas d'études fiables, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça ». Et il y a plein d'études toutes plus fiables les unes que les autres, donc là, ça les répertorie.
Merci beaucoup, en tout cas.
Et c'est aussi la fin de cette chromosphère estivale, un peu particulière, avouons-le. Nous espérons vous retrouver très bientôt, dès le 23 juillet, pour une émission... On va pas trop vous dire le titre à l'avance, parce que la dernière fois qu'on vous l'a dit, on vous avait dit le catholicisme et l'homosexualité, on n'a pas tenu parole. Bon, petit secret, on va quand même essayer de la faire la prochaine fois, mais des fois que ce soit autre chose, pas que vous soyez trop déçus, alors voilà. Continuez d'écouter Radio Campus, c'est une radio... qui s'écoute même pendant les vacances, et on peut vous souhaiter beaucoup de plaisir. Prenez soin de vous, protégez-vous du soleil et de tout ce que vous pourriez rencontrer sur votre passage. À très bientôt dans la chromosphère. Et on finit avec un titre de Yonder Boy de son album Splendid Isolation.
Tripping on the cover, got in a car just to never get back to me. Sneak in a room, she's missing her lover. I really hope I can get away with it. She's a top cop, she's a top dancer.